Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Corben et pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Eric Fraissinet.
Bonjour.
Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Guillaume Lopez.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Sébastien Juria.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc Corben, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter, juste pour les quelques auditeurs qui pourraient ne pas te connaître?
Ouais, alors mon pseudo c'est Corben, mon prénom c'est Manu. Et j'ai créé un blog il y a 11 ans maintenant, un site internet il y a 11 ans, qui s'appelle donc corben.info. qui est maintenant mon job, et voilà, dessus je parle de tout un tas de sujets différents, pas principalement de la tech, mais bon, ça peut être aussi un peu de cinéma, un peu de plein de sujets marrants, des petits logiciels, des petites bidouilles, des petits trucs à faire avec son ordi, ou ce genre de choses.
Alors, comment tu as décidé de créer ce blog?
Alors, j'ai créé ce blog, alors à la base, c'était pas un blog, en fait, c'était juste un site pour partager en full HTML, tout simple, et qui au fil du temps est devenu un blog, et puis maintenant j'en vis, c'est mon travail, on va dire.
Et comment tu penses que ton blog va évoluer dans les mois ou les années à venir?
Ça, on me la pose souvent cette question, et en général je dis j'en sais rien, parce qu'en fait j'ai toujours eu le même format, si tu veux, depuis le début, et j'écris mes news et je m'inquiète pas, je me pose pas de questions, je publie et basta quoi. Il y a pas de, enfin le format, en fait je suis tout seul, enfin je suis seul rédacteur, donc je peux pas m'amuser à traiter 10 000 sujets, à faire de l'actu chaude en permanence comme tous les autres sites ou tous les autres blogs. En général les blogs, enfin moi que j'ai connu à la belle époque, ont évolué justement en site média avec des rédacteurs, avec des articles un peu plus on va dire style journalistique, un peu plus construit, etc. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux juste continuer à écrire les mêmes conneries que d'habitude, comme je le fais depuis plus de 10 ans. Donc, en évolution, bah, il y a des petites évolutions en catégorie. Là, j'ai ouvert une petite catégorie formation. Je propose quelques petites formations, dont des formations en sécu. Je fais avec des partenaires. J'ai ouvert une petite section vidéo si vous ennuyez. Au boulot, ou si le week-end c'est un peu de temps à passer, je poste quelques petites vidéos, j'ai ouvert une section liens, voilà, où je publie tous mes petits liens intéressants que j'ai pas forcément le temps de développer ou de traiter, que je mets là parce que sinon j'ai l'impression que c'est gâché, quoi, de pas les partager. Ce genre de trucs, mais bon, ça c'est des petits trucs qui me demandent pas trop de temps, qui sont un peu en marge du site. Mais sinon, le contenu, le cœur du site, évolue pas, quoi. Au final, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Enfin, c'est toujours les mêmes sujets de fond.
Alors, quid de la sécurité, comment est-ce que tu l'abordes, en fait? Parce qu'il y a pas mal, tu traites beaucoup de sujets de sécu, finalement.
Bah, j'ai toujours une sensibilité pour ça. J'aime bien, c'est des sujets que j'aime bien, qui me fascinent. Alors, je suis pas du tout un professionnel de la sécurité. C'est pas mon boulot, mais bon, ça fait un moment que je baigne dedans et j'essaye, moi, en fait, de vulgariser ça pour monsieur, madame, tout le monde, quoi, d'expliquer un peu comment ça fonctionne, et puis surtout quand il y a des risques, on va dire, côté particulier, d'alerter un peu les gens, parce que comme le site est pas mal visité, ça permet aussi de donner de la visibilité à ce genre d'alerte, entre guillemets, pour que les mecs patchent ou règlent le problème, ou en tout cas soient informés qu'il y a des risques quand ils ont telle ou telle pratique. Donc ça me permet de faire passer aussi des messages à ce niveau-là. Puis sinon, il y a tellement de choses un peu marrante au niveau sécu que c'est toujours intéressant à aborder.
Et Corben, tu as été pour la première fois aux assises de la sécu, t'en as pensé quoi?
Écoute, j'en ai pensé que du bien, j'ai trouvé ça vachement intéressant, super passionnant. J'ai rencontré pas mal de monde. Alors bien sûr, il y a des petits stands où les mecs vendent leur boîte et tout ça, donc ça c'est un peu moins intéressant. Mais j'ai discuté avec des mecs super intéressants, voilà. Non, j'ai pensé que du bien. Bon, Monaco, ça coûte une blinde, je me suis assez vite ruiné, mais mais sinon le reste du temps c'était cool.
Et aux assises, t'as rencontré pas mal de RSSI, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont venus t'aborder, parce que c'est pas forcément le public de ton blog d'habitude?
Détrompe-toi, j'étais surpris aussi. Et en fait, ouais, non, il y a beaucoup de RSSI et il y a beaucoup de... Il y a même un qui m'a dit, alors là, j'ai halluciné, hein, qui m'a dit, si je suis devenu RSSI, c'est grâce à toi. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais bon, il m'a dit ça, donc c'était plutôt rigolo.
C'était à la fin de la soirée.
Ouais, non.
Il t'a expliqué pourquoi?
Non, bah parce que justement je parlais de sécurité et puis ça faisait longtemps qu'il me suivait et ça l'a intéressé et puis bah après il a fait sa vie quoi, il a creusé. Je l'ai pas formé au métier de RSSI avec mon blog quoi. Je l'ai peut-être juste allumé la petite étincelle, ça l'a intéressé et puis après il de fil en aiguille, s'il a été assez curieux, il a dû faire ce qu'il fallait quoi.
Il a fait un peu des BIOS, un peu de 27001, il est devenu RSSI.
T'as réussi à choper des goodies aux assises?
Non, j'ai pris juste un petit truc chez Airbus là. Tu sais, je peux te le montrer là, la caméra. Tu sais, les trucs Remove Before Flight. Ça là, ils m'ont donné ça là. Airbus. Mais ça, j'aime bien, j'en avais déjà d'autres. Donc, non, les goodies. Non, c'est bon, c'est pour se retrouver avec des malwares sur les clés USB. C'est pas la peine.
Et qu'est-ce que t'as pensé des glaces?
J'ai pas goûté de glace, je me suis pas fait cirer les pompes. Je suis passé à côté de tous les trucs sympas, quoi.
Mais quand t'es journaliste aux assises, c'est quand même dur d'avoir des goodies, hein. Vaut mieux venir avec un badge invité, ça marche mieux.
Ah bon? Ouais, je sais pas. J'ai pas testé. Non, mais moi, si j'ai des goodies, moi, si je demande, tu demandes gentiment, t'as des goodies.
Oui, mais il y a deux niveaux de goodies. Il y a ceux qui traînent sur le stand et il y a ceux qui sont rangés dans le placard en dessous.
Ah, d'accord. Bah non, j'ai pas eu ça, moi.
Et t'as discuté un petit peu avec des journalistes, justement?
Ouais.
Et alors, t'as parlé de quoi avec eux?
J'ai rencontré Marc Ries de Next Impact et on a parlé de...
sujet de société.
De son métier, du mien, de plein de trucs, pas forcément avec la... En fait, le truc, c'est que quand tu discutes avec des journalistes, tu parles pas forcément du thème qui t'entoure, quoi. Tu parles plutôt de problématiques... journalistique, les médias ou les traitements de sujets, l'écriture, enfin plein de trucs, quoi, la pub, autre chose, enfin voilà, où tu parles de la pluie et du beau temps. J'ai pas vraiment parlé de sécu avec les journalistes.
Ouais, c'est comme deux experts sécu qui vont se rencontrer à la plage et qui finalement vont parler de sécu.
Voilà. De bière.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Quelle conférence t'as préférée aux assises?
Ah, j'ai beaucoup aimé la conf de Nicolas Brulé sur Duke U, enfin je sais pas comment on dit.
Duke U,
où il a tout retracé sur le malware et j'ai trouvé ça passionnant. Il a pas pu la finir parce qu'il avait fait 100 slides pour 45 minutes. Donc après j'ai réussi à le choper et il a fini la conf rien que pour moi en salle de presse. Donc j'ai de la chance et j'ai trouvé ça vraiment passionnant quoi. Donc voilà, c'était le genre de conf technique qui m'ont intéressé.
C'est rare aux assises.
Alors il faut bien choisir ses confs.
Ouais, il y en a quand même 4 ou 5 en général qui sont un peu techniques.
Moi c'est ce qui me plaît le plus, ouais.
Et t'as une grande fanbase quand même, parce que dès qu'on te parle sur Twitter, qu'on dit quelque chose, etc., et que ça va un tout petit peu pas dans le même sens de ce que t'as dit, tu as une grosse base de défense qui vient. Alors t'es le premier à dire, et tu nous l'as redit tout à l'heure, que la sécurité c'est pas ton métier premier aujourd'hui, c'est quelque chose que t'aimes bien. Comment tu vis ce retour du lectorat qui peut à la fois te porter au nu et parfois te descendre tout en bas? Comment tu le vis au quotidien et est-ce que c'est facile?
Me descendre? Bon, les gens sont sympas en général. Non, en fait, oui, ce qui arrive par rapport à, par exemple avec la sécurité, hein, c'est que, comme je vulgarise, moi, je me permets de prendre certains raccourcis ou des fois, effectivement, je zappe quelques petits trucs. Mais d'un côté, enfin, certains côtés, c'est volontaire, c'est pour pas perdre les mecs, c'est pour pas noyer les gens sous des trucs techniques qui sont vraiment trop compliqués et on s'endort au bout de deux lignes, quoi. Donc effectivement, ça peut être un problème pour certaines personnes qui sont très à cheval sur les détails. Mais ça peut être surtout plein de sujets différents, hein. Ça peut être sur la sécu, sur du logiciel libre, sur des choses par rapport à Linux ou peu importe. Enfin, c'est voilà. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Hein. Je me fais pas démonter tous les jours, si c'est ça la question.
Il n'y a pas trop de gens haineux d'ailleurs sur tout ce qui est commentaires, Twitter, tout ça par rapport à tes articles?
Non, ça va. Ça dépend des périodes en fait. Quand c'est les vacances, ouais, un peu plus. que les mecs doivent s'emmerder, mais quand c'est le rush, ça va. non, ça va. Franchement, c'est pas la mort. Il y a toujours des rageux, mais bon, maintenant j'ai l'habitude. Hein, ça fait 11 ans.
Mais justement, les commentaires de ton blog, à un moment, tu avais pensé à les désactiver complètement et.
Ouais, ça c'était une période. En fait, le truc c'est qu'avec les commentaires, alors j'ai été assez laxiste pendant un moment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de modération, c'était un peu la fête. Donc c'était devenu un peu, on va dire un mini 4chan, on va dire, enfin sans les images, mais mais c'était un peu violent et les mecs s'insultaient entre eux, m'insultaient, ça partait dans tous les sens, il y avait de la diffamation, il y a plein de trucs, enfin bref. Donc ça m'a un peu déprimé, donc je les avais virés. Ça a pas duré longtemps parce que j'ai eu beaucoup d'emails de gens qui m'ont dit ouais, faut les remettre, les commentaires c'est essentiel, etc. Bon. J'ai dit ok, mais du coup j'ai basculé sur un autre système avec de la modération, j'ai pris quelqu'un pour modérer et puis voilà quoi. Mais bon, les commentaires c'est typiquement le genre de truc, moi j'ai pas spécialement le temps de les lire, donc j'ai lu de temps en temps, hein, ça m'arrive, mais c'est pas ma priorité. Je regarde plus souvent Twitter que les commentaires par exemple.
Il y a quand même une obligation légale sur les commentaires, enfin je sais
pas. Oui, non mais c'est pas moi qui m'en occupe, j'ai un modérateur qui gère, donc je fais confiance.
Et est-ce que suite à une publication d'article, tu as pu constater des attaques, tu vois, genre un article qui plaît pas du tout à quelqu'un, et un apprenti pirate, et qui t'a lancé des scanners ou des choses comme ça?
Non.
Ça doit quand même pas être évident d'héberger un blog WordPress en ligne depuis autant d'années. Il y en a eu un paquet des
zéros. Sans se faire défoncer? Ouais. Non, mais en fait, je fais super gaffe aux mises à jour, aux plugins, etc. Donc, je le mets très très souvent à jour, hein. Je laisse pas traîner les choses. Après je me le suis fait poutrer une fois, mais c'était il y a très longtemps, c'était même pas encore sous WordPress, c'était sur Spip et c'était pas vraiment de ma faute, j'étais sur un mutualisé et le serveur s'est fait véroler, mais alors c'était pas par un hacker, hein, c'était par un espèce de bot qui faisait de l'injection dans les fichiers. Et qui était passé par un autre site, un autre CMS qui était sur un autre compte sur le même serveur. Et donc ça avait infecté tous mes fichiers. Mais ça devait être en 2005 ou un truc comme ça. Et depuis, plus rien, parce qu'en front sur le site, j'ai mis Cloudflare déjà. Donc ça absorbe pas mal d'attaques, ça absorbe pas mal de choses comme ça. Ça mitige les. Comme on dit, ça mitige les DDoS. Voilà, enfin ce genre de choses, quoi. Donc ça me protège un peu. Après, j'ai fait le minimum et pour l'instant ça se passe bien.
Et tu dis que tu vis de ton blog, c'est-à-dire que t'as des gens qui te demandent de publier des articles ou des choses comme ça?
Oui, je vis de la publicité en fait. C'est-à-dire que je me fais contacter par des sociétés qui veulent faire un peu de promo. Et donc j'ai différents formats publicitaires possibles et voilà.
Parce que t'as pas de pub directement sur ton site, on dirait.
Si, il y a de la pub sur le site. C'est parce que tu dois adblock.
Il faut que t'enlèves.
Ouais, c'est pour ça.
Désactive
adblock. Enlever tes bloqueurs en fait.
Si, j'ai des petites bannières à droite dans la sidebar, un peu au-dessus. Peut-être un peu plus profond aussi dans certaines pages, ce genre de choses.
Et tiens, d'ailleurs, pendant que tu parles d'Adblock, t'as pensé à payer pour justement que les gens qui ont Adblock aient des pubs?
Non, je m'en fous. Non. Non, je laisse courir. Moi, les mecs, quand il y a des mecs qui viennent me voir en disant « il y a trop de pubs, ça me saoule », je leur dis « bah installe Adblock enfin, ». Tu vois. Un jour, j'ai reçu un mail qui me disait, le mec me disait « j'adore ton blog, je suis fan, je lis tous les jours. J'estime que tout travail mérite salaire, donc je vais pas bloquer la publicité. Mais comme la pub ça me gonfle, du coup je vais arrêter de lire ton site. Vas-y, accroche-toi. Hein. Donc je lui ai répondu, bah écoute, comme tu veux, mais tu peux installer Adblock, ça me dérange absolument pas. Et voilà.
Et tu n'es pas sur des plateformes type Tipeee, des choses comme ça pour recevoir des finances de la communauté?
Bah, jusqu'à présent, recevoir des dons, enfin des dons, ouais. Quand on est une entreprise, c'est un peu chiant. Après, j'avais fait un test pendant quelques mois où j'avais mis en place un système d'abonnement, alors pas très cher, à 1 euro, Le problème, c'est que voilà, j'avais, je sais plus, 200 abonnés. Enfin, c'était le début, quoi. J'avais pas trop poussé, donc déjà il y avait des bugs parce que j'avais mal intégré le truc. Après, ça faisait quand même 200 factures à éditer par mois, plus la com PayPal qui passait derrière, plus la TVA. Donc 1 euro moins PayPal, ça fait 70 centimes. Moins la TVA, il me reste 30 centimes. 30 centimes à facturer fois 200 tous les mois, c'est un peu chiant, quoi. Et puis au final, c'est que ces gens-là qui payent 1 euro, enfin qui payent 30 centimes, certains, alors pas tous, hein, y en a c'est pour le soutien, mais certains après viennent me voir parce que tel jour j'ai pas posté et c'est scandaleux, ou voilà. Ça, après le problème c'est que voilà, certains considèrent que t'es leur employé en fait. Donc je préfère avoir ma liberté là-dessus et pas m'embêter avec les dons. En tout cas, pour l'instant, je dis pas que je le ferai jamais. Hein. Mais pour l'instant, c'est...
Tiens, bah, d'ailleurs, question pour Corben, question intéressante. Parce que là, je vois parmi les personnes de No Limit Sécu, il y en a plusieurs qui sont encore sur IRC, dont moi. Est-ce que toi, tu es encore sur IRC?
Non, j'ai plus le temps, moi. Mais je suis comme Hervé, moi, j'ai pas le temps, je bosse. Alors, même si mon boulot, c'est d'écrire des conneries sur un site... j'ai pas le temps de jouer, j'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo, j'ai pas le temps d'être sur IRC, j'ai à peine le
non,
temps
mais on
sur
peut Twitter. Quand même, non, mais IRC c'est un truc qu'on peut faire en parallèle au reste, donc enfin moi je suis parfois sur certains canaux IRC, hein, j'avoue.
Mais c'est vrai que tu peux laisser un bot tourner, tu reviens lire le backlog de temps en temps, tu discutes un
ouais,
peu.
Je dis ouais. Je dis faux, il y a pas de bon client IRC sur iPad, donc
Bon alors Corben, tu as lancé une plateforme de bug bounty. Déjà, est-ce que tu peux expliquer à nos éditeurs ce qu'est un bug bounty ?
Alors bug bounty, c'est une récompense que des sociétés offrent à des gens qui trouvent des failles de sécurité. Donc en général, ça se fait sur des plateformes qui sont, enfin sur des périmètres pardon qui sont délimités, décrits dans le bug bounty. Donc souvent c'est de la prod, hein, c'est le site, voilà, le site de Google par exemple. Ben, vous pouvez participer à leur bug bounty. Si vous trouvez une faille de sécu chez eux, vous leur remontez et puis ils vous donnent de l'argent. Donc ça peut aller de $25 à $3000. Enfin, j'ai pas les détails, hein, pour Google, mais c'est pas non plus des sommes à plusieurs millions, quoi. C'est
détrompe-toi. Sur
oui, pour certains.
Sur Chrome OS, c'est plus le cas maintenant avec les arrangements de Wassenaar. Mais à une époque, sur une backdoor persistante sur Chrome OS, je crois que tu pouvais cumuler jusqu'à 2 ou 3 millions de dollars.
En une fois ?
Bah, en plusieurs bugs, mais...
Ouais, voilà. Il y a des gens qui se font un bon salaire en faisant ça toute l'année. Hein. Et donc du coup, il y a plein de bug bounty qui sont un peu partout sur la toile. Donc, il y a des gros sites qui propose du bug bounty, donc sur lequel vous pouvez créer vos bug bounty. Il y a aussi des sociétés qui mettent leur programme de bug bounty directement sur leur site web. Et donc nous on agrège en fait tout ça sur un site qui s'appelle Fire Bounty. Et sur firebounty .com, vous pouvez voir les derniers bug bounty sortis, faire des petites recherches. Que les bug bounty sont pas tous payés que de l'argent. Il y a aussi des cadeaux. Par exemple, United Airlines qui a offert des miles pour voyager. Ou alors il y a juste des remerciements ou le Hall of Fame, donc la petite galerie photo des vedettes qui ont réussi à trouver des failles de sécurité. Ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Donc nous on agrège et ça permet d'avoir un point central plutôt que de se taper tous les sites un par un. L'avantage avec le bug bounty, quand on est un passionné de sécurité informatique, c'est que justement on peut se faire la main, on peut s'amuser en restant dans la légalité. Enfin, si Eric n'a rien à redire là-dessus, voilà.
Et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'avoir fait ce site ? Comment tu te rémunères par rapport à ça ? C'est juste pour le fun ou c'est que...
Ça, c'est juste pour le fun, ouais. Ouais, ouais.
D'accord.
Ouais, ça se fait en marge d'un... En fait, ça se fait dans le cadre de Yes We Hack. Et Yes We Hack, c'est un site de job des métiers de la sécu. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai monté avec des amis depuis plusieurs années. Et donc là, on va développer d'autres petites choses. Et donc ça, c'est une première étape... voilà, sur lesquels c'est juste pour le fun, c'est pour faire un peu de promo et puis pour avoir un outil sympa pour justement proposer un truc à la communauté.
Mais vous faites juste l'agrégateur des bug bounty qui existent ou vous servez d'intermédiaire avec les gens qui proposent des bug bounty, par exemple ?
Non. Pour l'instant, on fait juste agrégateur. Mais ça permet aussi de faire remonter des petits bug bounty. Par exemple, ta boîte est toute petite, pas très connue. T'as un petit bug bounty que t'as mis sur ta page slash bugbounty.html. Tu nous envoies le lien, nous on l'indexe et puis elle aura un peu plus de visibilité, quoi. On la fait ressortir au même titre que les autres.
Mais du coup, après, je suis censé prendre contact directement avec la boîte ou je passe par vous pour remonter les failles?
Non, ça, tu passes par la boîte.
Et si jamais il y a un litige avec la boîte, que je demande un arbitrage sur un bug, par exemple, comment ça se passe?
Ça, c'est pas. En général, les gens qui veulent faire ça, on va dire, de manière cadrée, passent par des grosses plateformes de bug bounty, donc qui sont toutes aux États-Unis. Et là, c'est cadré, là, il y a un arbitrage. Mais bon, par exemple, Google a son propre programme de bug bounty. L'arbitrage, c'est eux qui le font, quoi. C'est-à-dire que tu leur envoies ta faille et puis ils t'envoient chier ou pas, si en fonction de ce que t'as remonté, en fait. Donc ça, après, c'est, on va dire, il y a aucun intérêt pour une société de mal se comporter avec des chercheurs en sécurité qui ont passé du temps et qui remontent des failles de sécu. Voilà, il y a des règles du jeu, faut la respecter, sinon ça va mal se passer, on va dire. Enfin, la rumeur va vite, quoi. Les gens vont râler assez vite. Google, quand il y a une faille qui leur est remontée et qu'ils l'ont déjà eue, ils expliquent qu'il y aura pas de récompense parce que la faille ils la connaissent déjà. Mais on peut pas le savoir finalement parce que c'est pas public. Donc peut-être qu'ils nous mentent, peut-être que c'est vrai, on peut pas savoir. Mais c'est juste un contrat moral, voilà. C'est tout. On fait confiance, quoi.
Et est-ce que t'as pensé à faire un bug bounty sur Corben.info?
Un bug bounty sur mon site? Non, pas encore. Mais faudrait. Mais j'ai pas assez d'argent pour rémunérer les gens correctement. Je vais plutôt filer des autocollants, quoi. Si tu trouves une faille XSS, je te file un autocollant.
Non, mais il faut que tu trouves un sponsor qui offre quelque chose de rigolo.
Ah ouais, bah écoute.
Sur firebounty.com, tu as de grosses entreprises qui disent juste merci. Donc, tu pourrais très bien juste te remercier.
C'est vrai. Oui, non, mais je pourrais le faire. C'est vrai, j'ai pas encore. Mais tu sais, moi, c'est un WordPress. Donc, si tu veux faire du bug bounty sur mon site, c'est du bug bounty WordPress. Au final. Tu vois.
Et tu parlais tout à l'heure de morale. Finalement, quel est l'intérêt d'aller voir les bug bounty entre guillemets officiels où j'ai le droit à un autocollant, voire un t-shirt chez Yahoo et parfois quelques milliers de dollars chez Google, alors que d'autres entreprises comme VuPen ou c'est quoi leur nouveau programme, c'est Zerodium, te payent des dizaines voire centaines de milliers de dollars et avec leur com récemment sur iOS 9 avec 1 million de dollars. Si tu arrives à avoir un exploit pour exécuter du code persistant.
Ouais, bah alors ça, bon déjà c'est pas sur n'importe quelle faille, hein, c'est sur des choses un peu.
iOS 9.
Ouais, sur iOS 9. Donc après, on sait très bien pourquoi c'est exploité ce genre de choses, donc c'est à toi de voir avec ta morale si tu veux remonter une faille dans ce genre-là. Mais bon, moi ce que je trouve un peu limite, c'est que c'est pas justement ça serait le bug bounty d'Apple qui dirait faites un test. Sur iOS 9, si vous trouvez une faille, on vous rémunère, etc. Bon, mais là, c'est quand même une société tierce qui dit cherchez ça dans tel ou tel produit, et si je vous l'achète pour après faire un peu des choses avec nos amis de la NSA ou je sais pas qui. Bon, voilà. Après, c'est juste, c'est pas le même délire en fait. D'un côté, il y a ce genre de pseudo bug bounty, on va dire, qui est plus du marché noir finalement, même si c'est VuPen et que c'est ils ont pignon sur rue, mais l'idée c'est qu'après ça part on sait pas où, alors qu'un bug bounty classique c'est une entreprise qui dit voilà, moi je veux améliorer ma sécurité, essayer de me pen tester et puis voilà, et puis je vous rémunère en fonction de ce que vous trouvez. Là, il y a un côté plus, enfin, c'est plus bon enfant, quoi. Voilà, on n'est pas sur des trucs marché noir, on vend plus offrant des 0D de fou, quoi.
Mais après, tu prends Apple, c'est très récent, c'est depuis très peu de temps qu'ils créditent les chercheurs qui ont trouvé des failles sur leur site. Avant, ils ne créditaient pas. Ouais. Même Microsoft s'est mis très récemment à créditer aussi ses chercheurs en interne.
Ouais, il y a eu un cas de chercheur qui a été crédité, et de toute façon, il est plus chez Microsoft aujourd'hui, donc
Il est français.
Donc bon.
Non, mais ils créditent uniquement lorsqu'ils sont obligés.
Disons que s'il y a un interne qui trouve une faille de folie et qui veut absolument être crédité, qui fait des pieds et des mains et qui est copain avec Mark Russinovich, ils vont créditer. Mais sinon, je pense que l'essentiel des failles sont corrigées sans crédit ou même sans avis de sécurité. Ouais. Après,
je pense aussi. Ouais.
Et de toute façon, ces histoires de crédit, c'est
pour la gloire.
Ouais, souvent tu vois des certes qui sont crédités ou des vendeurs de logiciels de sécurité ou autres qui sont crédités. Bon, en vrai, ils ont ni conçu, ils n'ont pas trouvé la faille. C'est pas eux qui l'ont exploité non plus.
Ouais, par ils contre, l'ont vu passer.
C'est comme l'épisode qu'on a fait sur Xcode Ghost. Si tu veux, ça a été récupéré par Palo Alto, mais au départ, c'est un blogueur chinois qui a sorti l'affaire. Et le blogueur chinois, personne ne se souvient de son nom, alors que maintenant, tout le monde a l'impression que c'est Palo Alto qui a découvert le truc. Donc les crédits, bon, il faut s'en méfier aussi, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres associations de sécu, à part la Nuit du Hack, où je crois que tu es ? Il y a d'autres assos et d'autres événements que tu suis ?
Non, pas vraiment, non. Niveau sécu, moi, j'ai fait pas mal de Nuit du Hack, effectivement. Mais comme je dis, hein, si on m'invite, je viens en général. Là, c'est tout. Mais non, je regarde un peu de loin, quoi. Si j'ai été à la DEFCON pour le 20e anniversaire, j'y retournerai peut-être dans 2 ans, un truc comme ça. J'avais bien aimé aussi ça. C'était plutôt sympa. Il y a une bonne ambiance. Voilà. Après, tiens, un truc intéressant que j'ai fait, c'était mardi. Donc, je sais pas quand sera diffusée l'émission, mais bon, cette semaine, quoi, j'ai fait une journée au ZSSI. Donc, c'est un truc organisé par l'ANSSI. En région en fait, sur avec des petites confs à destination des RSSI du coin pour parler de problématiques de sécu, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt sympa.
Et tu étais intervenant ?
Non, j'étais pas intervenant non, du tout.
Mais pourtant, tu n'es pas un OIV ni un établissement.
Non, je me suis
soumis au RGS. Donc
complètement
comment as-tu pu être invité à nos ZSSI ?
Je me suis tapé l'incruste.
Et du coup, c'est quoi tes sources? Qu'est-ce que tu suis en sécu pour, entre autres, tenir à jour ton blog?
On m'envoie pas mal de choses. Après, je suis des trucs très grand public. Hein. Je suis tout ce qui est Hacker News, ce genre de trucs. Quoi. Des choses comme ça, quoi. J'ai quelques éditeurs antivirus qui postent pas mal de trucs sympas sur des malwares, des choses comme ça. Mais bon, sinon, principalement, c'est des tweets que je vois passer ou de gens que je suis ou des choses qu'on m'envoie. Voilà. Mais je vais pas creuser le petit truc inconnu. Enfin, c'est assez rare, en fait. C'est plutôt la dernière faille Android, machin, que les mecs viennent de sortir. Tiens, on va tester, et puis voilà.
Et tu regardes un peu les stats de ce type d'article? Est-ce qu'ils intéressent beaucoup les lecteurs?
J'en sais rien. Non.
Un peu moins que d'autres sujets.
Je regarde pas trop. Je saurais pas te dire, en fait. Je regarde pas trop les stats, en fait, à ce niveau-là, et je sais pas, en fait. Moi, je sais que ça me fait plaisir d'en parler, donc après, même s'il y en a 3 que ça intéresse, ça changera pas grand-chose. Mais non, je sais pas, en fait. Je pense que ça intéresse, hein. Je pense que ça intéresse.
Bah, c'est surtout que maintenant la sensibilisation c'est devenu un thème. Enfin, la keynote ANSSI aux Assises de la sécurité, ils ont clairement dit qu'ils allaient s'orienter vers le grand public. Et quand tu vois le CIGREF qui vient de lancer sa campagne Hack Academy, c'est des choses qui vont. Enfin, je pense que tous les gens qui font de l'édification du grand public en France, ils ont leur carte à jouer là. Si jamais tu veux pas te faire payer 1 euro, mais un peu plus, il y a peut-être moyen de.
Ouais, écoute, merci pour le tuyau, mais ouais.
En fait, il faut faire une plateforme de sensibilisation et pas un bug bounty.
Bah, en fait, le blog, c'est déjà de la sensibilisation.
Perso, je sais que c'est les articles qui marchent le mieux sur mon blog. Hein.
D'accord.
Ceux qui donnent des conseils, qui sensibilisent, etc.
Bah, par exemple, pour Windows 10, je l'ai vu beaucoup tourner, donc je pense qu'il a bien marché, mon article sur, j'avais publié un petit tool puis un petit message d'explication pour parler justement de Windows 10 et ce genre de choses. Et puis ça, ça a bien tourné, quoi, parce que c'est des trucs grand public, tu sais, de qui, alors c'est pas vraiment de la sécu, mais c'est plutôt, on va dire, de la protection de vie privée, ce genre de choses. Ça intéresse aussi. Et puis dès que ça touche des, on va dire, des choses grand public, donc Android, iOS, mon navigateur Chrome, mon navigateur Firefox, etc. Ça intéresse beaucoup plus de monde que par exemple si je parlais de SCADA ou de ce genre de choses, quoi. J'ai fait un super article sur CryptoLocker. J'expliquais ce que c'était. J'abordais un petit côté un peu people sur qui est soupçonné de l'avoir créé, etc. Ce genre de choses. Et puis à la fin, je donnais des petits conseils sur quand il y avait moyen pour certaines versions de CryptoLocker, quels outils utiliser pour pouvoir récupérer ces données, et sinon des petits conseils pour on va dire amortir un peu le choc en cas d'infection, mais ce genre de choses aussi, sur des trucs qui sont, on va dire, très répandus, que tout le monde, enfin où il y a beaucoup de gens impactés finalement.
Alors justement, si on parle de sensibilisation et de conseils face à CryptoLocker, tu dois avoir tout un tas d'histoires d'horreur de gens qui t'ont contacté pour pirater le compte de leur copine ou récupérer leur fichier qui était tombé dans le broyeur.
Je me souviens de ça. Oui, oui. En fait, j'avais laissé mon numéro de téléphone sur mon site, donc sur la page contact. Et effectivement, j'ai écrit plusieurs articles sur craquer compte Gmail, mais des trucs, où je parle justement de telle faille ou telle chose, hein, je fais pas un tuto qui explique comment craquer un compte Gmail, mais il y a ces mots-clés là dans l'article. Et effectivement, donc les gens tombent dessus, et je recevais des coups de fil de femmes éplorées parce que leur mari était soupçonné d'avoir une aventure, donc fallait craquer leur Gmail, c'était souvent des femmes, hein, les enfants, on sait pas ce qu'ils font sur Facebook, j'ai besoin d'aller voir, il me faut, je vous paye et vous craquez leur mot de passe Facebook, ce genre de choses. Il y a un business là-dessus, mais bon, moi, je leur disais non, mais je sais pas faire, de toute façon, c'est illégal, je le ferai pas, etc. Elle disait, mais si, je suis sûr que vous savez le faire, je vais vous payer, etc. Mais bon, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc les gens, il y a un marché, hein, où il y a un marché là-dessus, où effectivement, il y a plein de gens qui cherchent à craquer plein de trucs, en fait. Et donc, ils n'hésiteraient pas à embaucher un hacker qui saurait le faire.
Et finalement, tu fais le métier que t'as voulu faire, ou c'est totalement fortuit?
C'est fortuit, mais c'est ce que je voulais faire. En fait, depuis le jour où j'ai eu le net, je savais même pas comment ça marchait, je comprenais rien. Le premier truc que j'ai voulu faire, c'est un site, en fait. Donc j'avais ma page perso, comme tout le monde, et après je me suis mis un peu à explorer, mais le premier truc que je voulais, c'était avoir ma présence en ligne, en fait, mon site, mon truc. Donc je me suis mis au HTML, etc. Donc j'ai toujours fait ça, en fait. Et même avant d'avoir le net, j'écrivais déjà, je faisais des petits zines au collège, des petits trucs comme ça. Enfin, j'ai toujours écrit, en fait. Et voilà, quoi. Et après, j'ai fait différents jobs dans l'informatique, et je me suis jamais senti, on va dire, épanoui totalement dans tout ce que je faisais. Et puis maintenant que je suis chez moi, à mon compte, sans personne pour me dire quoi faire, je me sens beaucoup mieux.
Et tu fais tes 35 heures ou tu fais tes 70 heures plutôt?
Ça dépend des semaines. Disons qu'il y a des semaines où je fais 70 heures, et puis il y a des semaines où, on va dire, la vie réelle avec la famille, les enfants et tout, me prend un peu plus de temps. Donc du coup, le boulot se fait un peu à l'arrache. Donc ça dépend, en fait. Là, en ce moment, je suis plutôt en mode je bosse 2 heures par semaine et je fais tout le reste. Enfin, je fais tout à l'arrache. Mais sinon, c'est plutôt l'inverse. Ça dépend, en fait.
Et t'écoutes le podcast No Limites Sécu?
Non, pas du tout.
Pas encore.
Mais je vais m'y mettre, hein, c'est promis.
Surtout que maintenant, notre qualité sonore s'est considérablement améliorée. Grâce à des techniques d'enregistrement modernes, ça devient un vrai plaisir de nous écouter.
C'est un peu long à mettre en place, mais...
Ouais, c'est ça le truc.
tu veux dire maintenant qu'on passe plus par Google, Nico?
Maintenant qu'on a plusieurs canaux d'enregistrement simultanés.
Mais d'un autre côté, il y a pas mal de CERT et de CSIRT qui publient des news, et dont certaines qui pointent vers des articles sur ton blog.
Ça arrive, ouais.
Comment tu gères ta continuité d'activité? Est-ce que tu fais tes sauvegardes? Tu exportes? Comment ça se passe?
Ma continuité d'activité? Tu veux dire mes backups?
Oui, par exemple, ouais.
J'en ai fait.
Est-ce que tu fais des tests de restauration?
Il faudra en faire plus souvent.
Ouais, j'avais une question toute bête. On parlait des publicités tout à l'heure. Est-ce que tu as choisi un service de publicité qui avait pignon sur rue, ou est-ce que tu as regardé celui qui t'offrait les meilleurs retours? Et puis, est-ce que tu as eu des incidents de sécurité avec tes pubs?
Alors, bonne question ça. Niveau pub, moi j'ai plusieurs choses. Alors à l'époque j'avais AdSense, donc le truc de Google, mais on a divorcé parce qu'ils m'ont demandé de censurer des articles qui leur convenaient pas, donc je me suis barré. J'ai ma régie, voilà, j'ai une régie qui s'occupe de moi et qui se débrouille pour faire un peu d'affichage publicitaire, et je fais aussi pas mal de trucs en direct. Donc ça, c'est le truc le plus intéressant, parce qu'en fait c'est le truc qui est le plus créatif au final.
Je fais donc ce c'est que toi je qui les mets en ligne en fait.
Ouais, ouais. Bah la régie c'est automatique, mais les trucs en direct c'est moi, oui. Et par rapport aux incidents de sécurité, effectivement, j'ai déjà eu des pubs qui étaient un peu moches. Comme en ce moment là, qui traînent pas mal quand on se connecte sur mobile. Ça remplace le site, et puis on a une espèce de fausse alerte au virus pour que les gens cliquent, etc. Une espèce de fausse pop-up. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois d'avoir ça. Donc en général, les lecteurs me préviennent. Je préviens la régie qui remonte, je sais pas jusqu'où, et ils arrivent à dégager le truc, quoi. Mais c'est un peu chaud parce qu'en fait, il faut trouver d'où ça vient, l'annonceur, etc. C'est un peu compliqué, quoi. Ça demande un peu d'enquête. C'est pas si simple, quoi. Donc ça, s'il y a déjà eu ce genre de problème de sécurité, et malheureusement, moi j'ai pas la main là-dessus, quoi. Donc quand ça arrive, je remonte et puis je gueule un peu, mais ça dure jamais très longtemps, mais c'est déjà arrivé, ouais.
Et les formations que t'as sur ton site, tu les as testées?
Alors j'en ai testé une ou deux, je sais plus. J'ai pas tout testé. J'ai pas eu le temps. Bon, on vient de les lancer encore. Enfin, on vient de les lancer, donc. Mais je connais les gens qui les font, donc y a aucun problème. Pourquoi t'es intéressé? Tu veux t'inscrire à laquelle?
Je regardais des formations sur 27001, par exemple, parce que je sais qu'on a des gens qui en font, et voilà quoi. Ouais.
Je l'ai pas testé celle-là.
Et au niveau de ta formation, est-ce que ça t'a... Enfin, t'as quoi comme type de formation, en fait?
Moi, j'ai un BTS, informatique, réseau.
BTS Iris?
BTS EIG. Voilà, donc c'est ça ma formation. Et après, le reste, c'était un peu tout seul.
Sinon, j'ai une question importante, Corben. On parle souvent de l'effet Corben, justement. Alors, d'une part, est-ce que t'as pensé à déposer la marque? Et d'autre part, est-ce que tu as pensé à ouvrir un service DDoS as a service?
La marque Effet Corben?
Ouais.
Non, j'ai pas déposé la marque Effet Corben. non, mais oui, des fois ça fait planter des sites, c'est plutôt rigolo. Mais bon, en général, c'est des petits sites, quoi, qui sont pas forcément préparés. Mais non, voilà, y a pas de. En général, ça va, y a très peu de gros sites qui plantent, mais le problème c'est pas tant le nombre de visiteurs que je peux envoyer, c'est juste que comme l'article paraît sur le blog, ça c'est en même temps, c'est tweeté, Facebook, etc. en même temps, tout le monde se connecte en même temps en fait, donc d'un coup le site se prend je sais pas combien de visiteurs en simultané, et donc là ça peut provoquer des petits soucis. Voilà.
C'est juste un tweet, hein?
Oui, ou juste un tweet, ça peut suffire. Mais souvent on me dit là par exemple j'ai écrit un article pour Framasoft, et on m'a dit gentiment tu peux nous prévenir avant de le publier, on prépare nos serveurs, quoi. Et même pour Fire Bounty, j'ai vu avec notre admin, on a convenu d'une heure où il va surveiller le truc et être sûr que ça crache pas, mais bon. Ah, mais même moi, des fois, je me fais cracher tout seul. Hein. C'est-à-dire que ça m'arrive aussi. Des fois, je publie des trucs et mon site ne tient pas.
Ça, c'est les gens qui sont pas dans le cloud. Ça. Ils scalent pas.
Ouais, je suis pas dans le cloud. Ouais, mais...
C'est-à-dire que pour le site web de No Limit Sécu, il va falloir prévoir aussi la charge.
C'est vrai.
C'est ça. Ouais.
Johan, tu as du boulot, là.
Ah, c'est trop tard, là. L'article est publié, là. Je l'ai publié au moment où on parlait, hein. Donc c'est mort là, les gars. Il est peut-être plus en ligne, votre site. va vérifier. Non, mais là, ça va, il est 23h. Les mecs font dodo.
Puis on a un site 100% statique, donc.
Oui, ça va, ouais, bon, en plus. Tu vois. Ça va bien. Faut du cash, faut mettre du cash.
Alors, comme tu observes beaucoup les tendances, les usages, etc., est-ce que tu regardes un petit peu en avant et est-ce que tu te poses la question, ça va être quoi la prochaine grosse tendance? Qu'est-ce qui va arriver comme matos, service, produit, et qu'est-ce qui te ferait envie? Qu'est-ce que tu aurais envie de voir, de tester?
Ça c'est des bonnes questions. Moi je suis pas trop sur les tendances, enfin tendances. Si tu vois, tout ce qui est matos, ça m'intéresse pas des masses en fait. On me propose souvent de tester un petit NAS ou un téléphone ou machin, mais j'ai un peu de mal parce qu'en fait je vois pas la différence entre tel ou tel téléphone, quoi. Ça m'arrive de tester les téléphones, mais c'est vraiment quand c'est le truc qui m'intéresse parce qu'il y a un petit plus ou parce que je suis un peu fanboy de tel ou tel truc. Mais sinon, ça n'a pas grand intérêt. Donc le niveau matos, les tendances, c'est un peu dommage. Non, moi, ce que je regarde surtout là en ce moment, c'est j'aime bien tout ce qui est robotique, tout ce qui est drone aussi, je regarde un petit peu. Et puis après, tout ce qu'on peut faire, par exemple, le Raspberry Pi, c'est assez intéressant. Bon, même si maintenant c'est un peu rentré, c'est moins tendance, quoi, on va dire, mais c'est le genre de petite bidouille, j'aime bien. Tout ce qui est voiture aussi, voiture connectée, mais plutôt voiture qui roule toute seule, voiture autonome, ça c'est un truc qui me fait triper parce que je trouve ça assez magique en fait. Il y a le petit effet waouh qui est sympa. En ce moment je bidouille aussi pas mal sur de la domotique, donc ça c'est pareil, c'est nouveau pour moi, il y a des gens qui font ça depuis des années, hein. Donc moi je découvre, je teste, j'ai fait quelques articles et j'en ferai aussi d'autres. Non, mais en fait, c'est pas, je suis pas un chasseur de tendance à chercher les trucs d'avenir. Moi, je parle plutôt de ce que je fais au quotidien, de ce que je teste. Des fois, je suis carrément old, hein, comme disent les gens. C'est-à-dire que je parle d'un truc que les mecs connaissent depuis des années, mais bon, moi, je viens juste de le découvrir et je me dis, je dois pas être le seul à pas connaître, donc j'en parle et puis voilà.
Et tu regardes un peu ce que font les personnes âgées, les enfants.
Il faut bien que tu précises ta question là. Tu regardes ce que font les enfants, ça veut dire quoi?
Comment ils servent des tablettes, comment ils servent des nouveaux outils, etc.
Ah, je vois avec mes enfants, je vois avec mon fils qui se débrouille plutôt bien, même si je lui laisse pas trop la tablette parce que après pour le décrocher de ça, c'est un peu dur. Mais je suis pas non plus, je connais pas ce qui se dit en cours de récré et quels sont les sites que les gamins s'échangent en cours de récré. Mais je vois que déjà le mien est plutôt doué et il connaît pas mal de trucs. Là, il avait vu une icône Candy Crush sur l'ordinateur d'un pote hier soir. Et puis, il me dit, ah, c'est quoi ça, je veux jouer et tout ça. Je dis, non, tu joues pas. De toute façon, c'est un jeu pour les grands. Puis là, il me sort, ah oui, j'ai déjà joué. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, sur ta tablette. Il s'est tapé mon code pour déverrouiller le truc. Enfin, il se débrouille bien. Il a 4 ans, donc.
Il a déjà essayé Fire Bounty?
Non. Non, mais bon, pour l'instant, tu vois, je préfère qu'il s'amuse. Il aime bien bouquiner, en fait. Donc, il est plutôt le nez dans les bouquins que dans la tablette, en fait.
Et tu penses mettre du contrôle parental, du coup?
Je suis pas trop, je sais pas encore là-dessus. C'est un peu compliqué. Je suis pas favorable au contrôle parental. C'est-à-dire que moi, je pense que, enfin, je suis bien placé pour savoir que le contrôle parental, ça se fait sauter en 2 secondes. Et dès que t'imposes des limites, le jeu, c'est de les faire sauter, quoi. Donc, c'est limite même trop drôle de mettre un contrôle parental. Je pense que s'il y a un truc à faire, c'est plutôt rigolo au niveau de, enfin, plutôt mettre l'ordi dans le salon avec les parents derrière et puis le gamin qui fait ce qu'il a à faire et puis on lui fait confiance, on le brief et voilà. Et bon, je suis pas pour le flicage. Après, j'ai pas testé. Enfin après, voilà. Après, je changerai peut-être d'avis là-dessus. Hein, peut-être que je mettrai des règles sur mon routeur et je vais filtrer tous les mots-clés et machin, je sais pas. Le seul truc que je fais là pour le protéger un peu, c'est j'ai foutu un adblock sur un des ordis pour pour virer les pubs YouTube en fait, parce que entre deux épisodes de Choupi, tu tapes une bande-annonce pour un film d'horreur et c'est le seul truc que j'ai voilà, que j'ai mis quoi.
Est-ce que le contrôle parental c'est pas une manière d'éduquer les enfants à leur vie professionnelle future?
C'est pas faux ça. Ouais, je me souviens de la belle époque hein, moi quand je travaillais en entreprise, c'était un peu la fête du slip. Je pouvais faire un peu ce que je voulais. Là, quand je vois maintenant t'as même plus le droit de mettre une clé USB et que si tu sors une donnée de l'entreprise, tu te fais virer. C'est plus pareil, quoi. Donc effectivement, le contrôle parental en entreprise, il est omniprésent. Et moi, c'est un truc qui me rendait fou. Enfin, c'est-à-dire que moi, en tant qu'informaticien, quand j'étais dans des boîtes où des mecs au-dessus de moi bloquaient des sites et m'empêchaient de faire, ça m'obsédait. Fallait que je passe outre le truc, quoi. Donc et je supportais pas ça. Je détestais ça. Donc je pense que j'aurai un peu de mal maintenant à bosser dans des boîtes où tout est bloqué, censuré, surveillé. Je sais pas.
Mais je te rassure, c'est le cas de tout le monde. Hein, les boîtes. Enfin, quand tes enfants seront grands, ils travailleront dans les entreprises où il y aura plus aucune barrière.
Déjà aujourd'hui, il y a de moins en moins de contrôle.
J'ai pas l'impression. Hein, moi, j'ai plutôt l'impression du contraire. Les mecs te bloquent pas Facebook, ils vont pas te bloquer Twitter, mais ils surveillent tous les flux, ils savent tout ce que tu fais. Enfin.
Ah oui, ça c'est obligatoire.
Ouais, voilà, mais c'est un flicage quand même.
Mais il y a beaucoup d'entreprises qui avant faisaient de la whitelist, par exemple pour les sites en HTTPS, et qui maintenant mettent à peine de la blacklist.
Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis ça a été démontré qu'un peu de Facebook dans la journée, ça détend les gens, et puis ils sont plus productifs après.
De toute façon, ils l'ont sur leur téléphone. Hein.
Aussi, oui. Ouais.
Et puis il y a de plus en plus d'entreprises qui font de la com sur Facebook avec des pages Facebook de com, donc tu es bien obligé de les ouvrir.
Ouais.
Et qui demandent à leurs employés d'aller liker les comptes Facebook, follower les comptes Twitter, etc. Parce que ça leur évite d'avoir acheté des followers chinois.
De mettre la page Google Plus dans leur cercle.
C'est quoi ta plus belle histoire avec ton blog hein?
Mais il peut pas la raconter, la plus belle histoire. C'est privé, tout ça.
Non, il y a rien de privé, moi, tu sais, j'ai rien à cacher, tu vois, tu la connais, la rengaine, j'ai rien à cacher. Non, la plus belle histoire, non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait des trucs un peu de fou, je pensais jamais faire, quoi. J'ai fait des très beaux, j'ai fait des très beaux voyages, j'ai vu des très beaux pays, j'ai fait un vol 0G, par exemple. Donc, c'est les vols où on est en apesanteur, on peut faire des pirouettes dans l'avion. Voilà, j'ai vu le décollage de la fusée Ariane, j'ai fait des petits trucs comme ça, j'ai rencontré des gens dont j'étais absolument fan quand j'étais enfant et que j'ai vu adulte et qui me disent « Ah, j'adore ce que tu fais, c'est sympa ». Enfin, des trucs voilà que je garde pour moi, mais qui m'ont fait plaisir, genre de trucs, quoi. Mais c'est voilà, j'ai pas d'histoire précise, mais j'ai fait des trucs rigolos, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai fait des trucs... J'étais invité à des endroits où j'aurais jamais pensé mettre les pieds, ce genre de choses, quoi.
Il y en a quand même où t'as refusé, comme, je sais pas, l'invitation de Sarko, des trucs comme ça.
Ouais. Ouais, j'ai refusé deux invites à l'Élysée. Une avec Sarko, une avec François Hollande.
Ça, faut le faire quand même. Refuser des invites à l'Élysée, moi, j'aurais accepté, hein.
Ouais, je sais pas. Non, mais en fait, c'est particulier, quoi. C'est dans le cadre, enfin, c'est de la com, c'est de la récupération, c'est faire des poignées de main devant les journalistes en disant, regardez, on fait des trucs pour Internet et on invite des gens d'Internet. Non, c'est bon. Enfin, moi, c'est le genre de truc qui me saoule. Donc, j'ai décliné poliment. Hein, j'ai pas fait d'article où j'ai brûlé l'invitation en disant qu'ils aillent en enfer et tout. Non, j'ai juste dit non, ça m'intéresse pas, merci, au revoir.
Et tu déconnectes des fois?
Oui, je déconnecte des fois, genre 5 minutes quand je vais aux chiottes, ou sinon quand je vais faire un tour dans le jardin, mais non, je déconnecte pas vraiment en fait. Je peux pas trop en fait déconnecter. Déjà parce qu'il y a un travail de veille, hein, comme je dois écrire, bah, je fais pas mal de veille aussi pour me tenir au courant des sujets. Donc si tu veux, les moments où je suis pas devant l'ordi à écrire, bah, je suis devant le téléphone à faire de la veille. Donc je suis un peu tout ce qui se fait, et puis je mets de côté les trucs, enfin tout ce qui se passe, et je mets de côté les trucs qui m'intéressent et que je retraite après plus tard. Ça peut m'arriver de déconnecter, mais il faut vraiment que je sois dans un truc. Bah par exemple aux assises, j'ai déconnecté quoi. Aux assises, j'étais dans les confs, j'étais avec les gens avec qui je parlais, j'étais pas pendu sur mon téléphone ou sur mon ordi quoi. Bon, je faisais des petites photos, des petits trucs comme ça, mais voilà.
Et tu utilises quoi pour faire ta veille? Tu disais que tu fais ta veille sur ton téléphone. Tu utilises quoi pour noter les sujets?
J'utilise Feedly.
D'accord.
Donc j'ai tout un tas de flux là-dedans. Bon, avant j'utilisais au début j'utilisais NetVibes, mais bon c'était un peu old school. J'ai jamais réussi à me mettre à Google Reader. Après je suis passé sur Feedly et quand Google Reader a fermé, Feedly a décollé. Et voilà, mais ça fait un moment que je suis sur Feedly en fait. J'aime bien. Et là j'ai découvert un truc qui s'appelle Prismatic aussi que je connaissais pas je connaissais pas la semaine dernière et qui est plutôt sympa parce que là c'est un peu en mode random en fait, ça balance des news dans des thématiques qu'on choisit et c'est un peu aléatoire quoi, c'est pas voilà, si on la regarde pas tout de suite la fois d'après on en a d'autres et puis on la laisse passer quoi.
C'est comme sur Twitter quoi.
Ouais, un peu ouais.
Et Corben, franchement, là t'as plein d'experts sécurité en face de toi, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, de leur envoyer à la figure, ou quelles questions tu rêves de leur poser?
Ah bah moi il y a un truc que j'ai jamais appris à faire, mais je connais plein de gens qui savent le faire, faudrait que je leur demande, mais j'aimerais bien qu'un de ces quatre, je m'assoie à côté de quelqu'un et qu'il me montre vraiment comment il fait un vrai pen test de fond en comble sur un client ou un genre de truc. J'aimerais bien avoir une formation pen test par un mec qui maîtrise à mort. Qui me montre tous ces trucs et astuces, mais pas pour le faire après, hein, mais juste pour me régaler en fait.
Voilà. Ah bah ça peut se faire.
Ça peut se faire, voilà. Bah.
Tu peux déjà aller voir le compte rendu du hacker qui a piraté Hacking Team. Tout ce qu'il fait en fait, tout ce qu'il décrit, sa procédure, c'est ce qu'on fait en audit.
D'accord, ok. Bah écoute, j'irai voir. J'ai pas lu ça encore. Ok. Ah,
t'as un lien avec l'article, Vlad?
C'est dans la revue de l'Ossir du mois de septembre, je crois.
Ok.
Il y a aussi le rapport Foxit sur l'intrusion chez DigiNotar qui est assez circonstancié aussi. Même si tu n'apprends pas grand-chose parce que c'est niveau zéro de l'intrusion. Mais bon.
Oui, bah beaucoup de belles attaques sont réussies parce qu'il y a des grosses faiblesses.
Hein. Enfin, ce que j'ai noté, c'est qu'Hervé t'a invité à passer quelques jours chez lui. Donc,
j'ai vu
pas.
Que dans son frigo, il y avait pas mal de binous au frais, donc pourquoi pas.
Hein. Mais Hervé, c'est un fan de l'opéra de Vichy, il viendra plutôt te voir.
Ah bah c'est bon. Vichy, c'est une ville de vieux, hein. J'ai envie d'y traîner.
Pas du tout. Il y a un très beau détachement de l'université avec plein de jeunes filles. Il y a vraiment des idées reçues sur certaines villes qui sont complètement dépassées.
Ah, c'est dommage, nos auditeurs ne verront pas l'œil qui pétille d'Hervé. Et Vlad, toi, tu l'invites pas?
Tu veux que je l'invite où? Ah, le CIR, pourquoi pas?
Non, mais toi, tu fais pas des pen tests des fois?
Si.
Non, tu fais plus ça.
Si, assez régulièrement.
Ah, bah non, voilà. Mais il faut bien comprendre. Attends, je rappelle quand même Eric qui a un besoin d'en connaître. Donc, en fait, on peut difficilement inviter quelqu'un à voir un pen test. Par contre, quand on fait des formations, c'est très facile de pouvoir l'inviter à une partie de la formation où il y a la démonstration en direct.
Ou sinon, tu prends un rapport, tu l'anonymises et tu lui donnes. C'est pareil, c'est ce qu'on fait parfois pour certains clients.
Bah, exactement. Mais non, mais alors tu sais ce que tu fais quand même. Tu fais un appel d'offres pour demander un test d'intrusion sur ton site en demandant dans ton appel d'offres avoir un rapport anonymisé.
C'est pas con.
En anglais.
En anglais, ouais.
Ou alors tu demandes à une société bien sous tout rapport qui est l'une des leaders sur la formation de venir faire une formation pentest à Clermont-Ferrand.
Bon Corben.
Oui.
Un grand merci d'avoir participé à cet épisode.
Ben, merci à vous de m'avoir invité, c'était très sympa.
Bon ben, je rappelle ton site corben.info pour les quelques auditeurs qui pourraient ne pas le connaître. On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Salut.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.